La cloche retentit, 9h30 à New York, USA Today. Nos experts sont là. Éric Lafrenière pour USA Today, Richelieu. Bonjour Éric.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Étienne Braque aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne. Content aussi de vous retrouver Étienne. Comment
Bonjour à tous.
Wall Street se réveille-t-il aujourd'hui?
Dans le rouge avec une séance de baisse une nouvelle fois après une belle séance pour l'indice Nasdaq qui a gagné plus de 1,6% hier. Eh bien, il repart déjà à la baisse, moins 0,6%. Vous avez un Dow Jones qui perd 0,6% quand le S&P de son côté est également sous les 5200 points avec notamment le secteur bancaire, on en reparlera dans un instant, qui pèse sur la tendance, des baisses de plus de 3% pour JP Morgan, moins 1% pour Goldman Sachs, et puis dans le même temps les valeurs technologiques qui repartent également à la baisse avec notamment ce titre Intel qui perd un peu plus de 3% avec des informations de presse qui évoquent, c'est le Wall Street Journal qui dit ça, et bien que les autorités chinoises demandent aux grands industriels chinois de se préparer afin, dès 2027, ne plus avoir recours aux grands leaders américains dans le secteur technologique. Donc forcément, ça fait baisser ce titre Intel aujourd'hui. Apple, qui avait gagné plus de 4% hier, qui a vraiment fait la séance américaine en toute fin de séance, est toujours dans le vert, plus 0,2%, avec notamment des informations de Bloomberg qui évoquent que dans les futurs Mac, il y aura des puces dédiées à l'intelligence artificielle. 175 € pour cette valeur. Nvidia, de son côté, perd 0,6%. Microsoft, moins 1%, beaucoup de mouvements sur l'obligataire qui se détend très légèrement, moins 6 points de base pour le 10 ans américain à 4,50. Le Brent prend plus de 2% et revient sur ses niveaux d'octobre dernier, au-delà des 91 $, alors que vous avez notamment des informations de presse, décidément rien n'est officiel aujourd'hui, mais qui évoquent qu'Israël va mener des attaques contre l'Iran dans les prochains jours et que l'Iran pourrait également, de son côté, riposter. Donc forcément, ça fait bondir les matières premières. Ça fait bondir également l'once d'or qui est au-delà des 2400 $ à 2414 $ sur un record historique, plus 1,7%. Wow. Et puis l'euro-dollar qui n'en finit plus de baisser, le dollar qui est toujours aussi fort. Rappelez-vous, en début de semaine, on était quasiment à 1,09 et là, le dollar, euro-dollar se retrouve à 1,0634 avec forcément des baisses de taux qui s'éloignent aux États-Unis. C'est bon pour le dollar. Et puis le dollar qui est forcément une valeur refuge dans un contexte géopolitique toujours très compliqué.
Alors ce contexte géopolitique, ces tensions importantes au Proche et au Moyen-Orient, là, est-ce que le marché les price suffisamment? On posera cette question dans quelques minutes et tout au long de l'après-midi à nos experts. Et c'est vrai, il ne faut vraiment pas tourner le dos à ces records de l'once d'or, pas se dire oui c'est juste dû aux perspectives monétaires et d'inflation. Il y a peut-être quand même aussi la dimension d'actifs refuge. On parlera de ça avec nos experts donc cet après-midi. Les banques américaines commencent à publier. Éric Lafrenière, spécialiste des marchés actions américains, c'est le D-Day, c'est votre 14 juillet à vous là aujourd'hui Éric, c'est le coup d'envoi des grandes publications. Quel premier signal les banques envoient-elles à travers leurs résultats?
Oui, déjà juste avant de rentrer dans le détail des trois principalement que j'ai pu regarder avant l'émission, c'est qu'on a eu ce marché depuis le début de l'année qui était, en tout cas jusqu'à la clôture d'hier, on avait un S&P qui était en hausse de 9,4%. On avait le secteur financier du S&P qui était en hausse de 8,5% en dollars, bien entendu. Et on avait ce marché qui avait un peu ignoré tout ce changement qu'on a pu avoir de 6 à 7 baisses des taux en début d'année à plus que 2, voire 1 maintenant. Donc le marché, il a monté sur les perspectives de résultats des entreprises. Donc on vient de rentrer dans le vif du sujet avec les premières financières. Ce qui était beaucoup recherché côté financière, c'était qu'est-ce qui allait ressortir en termes de revenus nets d'intérêt et en termes de marge nette d'intérêt. Donc quand on regarde les résultats de JP Morgan, globalement des résultats pas très mauvais, plutôt même correct, mais on a eu effectivement côté revenu net d'intérêt et marge net d'intérêt des déceptions, en tout cas des chiffres qui ont été des guidance qui ont été maintenus pour cette année, et les guidance étaient en dessous de ce qui était attendu par le marché. Le titre était pénalisé en pré-marché, perdait de l'ordre de 2-3%.
J'imagine là on est à -3,5 en ce moment sur JP Morgan à l'ouverture.
Et ce qui était intéressant, ce qui était bien plutôt dans les résultats, si on regarde un petit peu quand même un peu de positif, c'était que les activités de trading sur les actions, sur les obligations étaient plutôt bonnes. La banque d'investissement, elle a été très bonne, que ça soit d'ailleurs sur JP ou Citibank, on a eu plutôt des bons chiffres côté banque d'investissement. L'activité banque d'investissement fonctionne toujours mieux sur le premier semestre globalement, donc là il n'y a pas de surprise, mais en tout cas c'est plutôt bien. Mais on a vu que ça soit sur Wells Fargo ou Citigroup, tout ce qui tourne autour des revenus nets d'intérêt était plutôt décevant dans cet environnement où les taux restent relativement élevés. Et dans les premiers commentaires qu'on a pu avoir côté JP Morgan, c'est que moins de dépôts et une compression des marges. qui font que ces marges d'intérêt ressortent en tout cas en dessous des attentes du marché.
On va y revenir, hein, ces publications qui démarrent aux États-Unis, le coup d'envoi avec le secteur bancaire, on va y revenir avec nos experts tout au long de l'après-midi. Il ne faut pas rater, alors vous l'avez rapidement évoqué, ce secteur, ce segment, cette cote, cette partie de la cote, pardon Étienne, la tech bien sûr. On parle un peu moins depuis quelques jours d'intelligence artificielle, on en avait tant parlé au premier trimestre, là on en parle un peu moins, à nouveau un peu plus grâce à Apple hier, mais voilà, on sent que cette thématique IA, elle est toujours présente dans le marché, mais le marché s'y est presque acclimaté. Est-ce que la tech, du coup, pèse toujours autant sur les tendances de Wall Street au jour le jour ou un peu moins que par le passé? C'est la question qu'on peut se poser, Étienne.
Bah, la séance d'hier est un bon exemple. Hein. Rendez-vous compte, Apple a signé sa meilleure séance depuis mai 2013 avec un gain de 4%. Nvidia, qui était rentrée en phase de correction, qui avait perdu 10% par rapport à ses plus hauts, n'a visiblement pas envie de baisser. On le voit encore aujourd'hui avec un titre qui surperforme. Eric Lafrenière, on a une tech américaine qui est toujours aussi présente et Wall Street qui est toujours aussi dépendant à ces 7 magnifiques quand même.
Oui, sur la clôture d'hier, bah, le poids de ces 7 magnifiques a atteint les presque 30% de l'indice, donc ce qui est énorme. Et ça, malgré la mauvaise performance depuis le début d'année de vous citiez Apple, on a aussi Tesla, puisque à la clôture d'hier, Apple, malgré la bonne séance, perdait presque 9%, Tesla presque 30% depuis le début de l'année à la clôture d'hier. Malgré ça, tiré en grande partie par Nvidia, la demande pour ses processeurs qui affichaient une progression de 80% depuis le début de l'année, Meta 48, Amazon qui reprend un petit peu cette année qui continue un petit peu son accélération, 24%, et Microsoft et Alphabet qui ont fait légèrement mieux que le marché, mais qui ont fait mieux, et donc tout ça globalement fait que ce groupe de 7 valeurs continue de tirer le marché, et le poids représentatif dans l'indice continue de légèrement progresser pour atteindre près de 30% aujourd'hui. Quoi.
Effectivement, et donc Apple qui pourrait intégrer l'IA dans ses Mac, on y consacre un article sur le site BFM Bourse, n'hésitez pas cet article à le consulter, parce que c'est vrai, Apple hier a beaucoup progressé, plus de 4%, une de ses meilleures séances en un an d'ailleurs, hein, en un an et demi même, et puis aujourd'hui Apple continue de surperformer un tout petit peu le marché à plus 0,1%. En revanche, Intel et AMD en repli, plus de 3% de repli chacune cet après-midi à l'ouverture de Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, d'après Wall Street Journal, Eric, la Chine demande aux opérateurs de télécommunications chinois d'éliminer progressivement les puces étrangères, et ça, c'est pas bon, ni pour AMD, ni pour Intel.
Oui, tout à fait. On leur a demandé déjà de vérifier tous les semi-conducteurs qu'ils avaient, qu'ils étaient étrangers. On leur a demandé de fournir un plan détaillé pour sortir ou remplacer ces semis d'ici 2027. Par le passé, ce genre de choses était un petit peu plus difficile parce qu'on n'avait pas nécessairement la performance ou de tout ce qui était fabriqué localement. Aujourd'hui, on le voit à travers les différents sondages d'achat qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de semi-conducteurs fabriqués localement ou de marques locales qui sont achetés. Donc on voit que du côté technique, ça sera de plus en plus possible, en tout cas facile d'y arriver, et on voit qu'il y a une pression relativement forte. Mais ça va être un enjeu qui va être très important sur tout ce qui tourne autour de la technologie de façon plus large. On l'avait déjà vu dans un premier temps avec les téléphonies mobiles. Huawei commence maintenant à monter. On le voit dans les ordinateurs. La Chine, au fur et à mesure, certes peut-être plus lentement qu'on pourrait l'attendre, mais une fois que l'expertise est atteinte, pour des sujets qui sont d'une importance quelque part, on pourrait dire nationale, va chercher à remplacer justement par des produits maison.
Oui, et donc moins 3% de repli là aujourd'hui. Le marché ne fait pas de cadeaux, et pas dans la dentelle. En tout cas, Intel perd 3,5%, de même que ce titre AMD. Et pendant ce temps, donc toujours le risque géopolitique qui monte, effectivement, des menaces iraniennes sur Israël. D'après le renseignement américain, on irait vers une attaque imminente et peut-être massive. Bon, et puis Israël qui promet une riposte. Bref, c'est très compliqué et honnêtement, c'est très très chaud. Le pétrole remonte, Étienne. Voilà, parmi les actifs à ne pas rater aujourd'hui, vous citiez l'once d'or qui monte, le cours du baril aussi est en train de progresser.
Ajouter à cela un euro qui est faible, ça c'est pas une bonne nouvelle pour l'inflation. Mais c'est vrai qu'en tout cas, vous avez un pétrole qui est sur des plus hauts d'octobre dernier, au-delà des 91 dollars, Éric Lafrenière, avec notamment un risque géopolitique qui est toujours présent. Mais dans le même temps, apparemment, l'Agence internationale de l'énergie qui revoit à la marge ses prévisions et constate qu'il y aura une demande de pétrole un peu plus faible en 2024 par rapport à 2023.
Oui, donc ils ont réduit leurs attentes de barils à 1 million de barils jour pour 2024 à 1 million de barils jour pour 2025. En fait, en disant que l'effet qu'on avait eu de rattrapage par rapport au Covid était maintenant derrière nous, que la demande ralentissait un petit peu, mais on voit que le pétrole, justement, sur son risque géopolitique, reste élevé, mais ce sera peut-être plus pour les contrats court terme que les contrats plus long terme. Il faudrait regarder la courbe.
Éric Lafrenière nous accompagne, Richelieu, spécialiste des marchés actions américains. Merci beaucoup Éric de nous avoir accompagnés cet après-midi toute la semaine. Bon week-end avec quelques heures d'avance.